Europe 1.
Il y a 150 ans, le 15 avril 1874, ouvrait à Paris la première exposition des peintres impressionnistes. La suite, on la connaît, la critique se déchaîne, elle leur reproche à la fois leur manière de peindre et le choix de leur sujet. Il faut dire que l'impressionnisme révolutionne complètement la peinture, hein, renversant d'un coup 4 siècles de conventions. Cyril Siama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du musée des impressionnismes à Giverny, et pour célébrer ce 150e anniversaire, vous avez choisi d'organiser une exposition totalement inédite avec l'aide du musée d'Orsay qui vous a prêté 16 chefs-d'œuvre. C'est l'impressionnisme et la mer qui dure jusqu'au 30 juin. Pourquoi la mer ?
C'est un thème extrêmement fédérateur, plaisant et ambigu, qui nous fait voyager, qui nous fait rêver, et qui, finalement, ce sujet n'avait pas été traité dans une exposition en tant que telle.
Mais pourquoi l'impressionnisme et la mer ? Vous auriez pu faire l'impressionnisme et la campagne.
L'impressionnisme et la campagne, ça a déjà été fait. Et ce qui nous intéresse à Giverny, c'est de trouver des sujets un peu inédits, qui fait aussi référence à la recherche récente. Et donc on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de choses sur les loisirs balnéaires et les impressionnistes, sur la femme et les impressionnistes, sur des artistes impressionnistes femmes comme Berthe Morisot, par exemple, ou Marie Cassatt. Mais ce sujet, qui est tellement fondamental pour l'impressionnisme, ben, je trouve que c'était bien de le mettre à l'honneur pour les 150 ans, revenir aux bases. À Orsay, il y a 1874, à Giverny, il y a la mer. Évidemment, à Orsay, il y a Impression au soleil levant qui est présenté.
Voilà,
on aurait adoré la voir.
Voilà,
qui
est le tableau de Claude Monet qui va donner son nom au mouvement, l'impressionnisme. Et c'est vrai que c'est une marine, hein, tout simplement une marine, une vue du Havre qu'il avait peint 2 ans avant l'exposition.
Absolument, en 1872, on a l'impression que c'est un portrait industriel très brumeux, mais c'est quand même une marine magnifique et on voit très bien les bateaux. Donc c'est une impression, c'est un sentiment et c'est ça qui fait la modernité du tableau.
Alors qu'apporte exactement l'impressionnisme de nouveau en 1874 et pourquoi va-t-il mettre si longtemps à s'imposer ? Car il faudra attendre 12 ans hein, en 1886, la première exposition impressionniste à New York pour que ça commence à se vendre.
Ça s'est vendu grâce à Durand Ruel, qui était le marchand des impressionnistes, qui fait une exposition incroyable à New York, qui présente Monet, Renoir, et les impressionnistes sont alors collectionnés par les amateurs américains.
Les riches industriels
américains. Les riches amateurs américains.
Alors qu'au même moment, les riches français, ils achetaient des Rembrandt.
Absolument, mais c'est aussi dû à une artiste comme Marie Cassatt, qui fait aussi l'intermédiaire entre l'impressionnisme français et les Américains. Elle conseille des amis assez riches à New York d'acheter de l'impressionnisme.
Elle-même est une peintre impressionniste, elle a fait partie du groupe impressionniste, pas dès la première exposition, mais ensuite.
Hein, absolument, et elle peint des magnifiques maternités. Pourquoi ça prend tant de temps ? En 1974, on est dans une situation politique un peu compliquée. La France a perdu la guerre de 70-71, franco-prussienne. Il y a eu la commune et l'économie n'est pas très florissante. On se fait plaisir, on garde un peu des valeurs sûres sur le salon où on présente des artistes assez académiques. Et donc cette peinture impressionniste, elle prend tout le monde de court en fait. C'est un peu une révolution. Et les critiques sont désarçonnées. Il y a quand même des critiques bienveillantes, mais évidemment la critique, elle est plutôt ironique. Et il va y avoir 10 ans à peu près pour que ça fonctionne bien pour les impressionnistes.
Mais qu'est-ce qui les choque à ce point, les critiques ? C'est parce que ça ne ressemble pas ?
Ça ne ressemble pas et puis c'est pas beau, en fait. Pour eux, ce n'est pas le grand idéal de la peinture qui doit représenter des idéaux sociaux, historiques, économiques, de la mythologie, des grandes batailles, la grandeur de la France. Et eux, ils représentent les impressionnistes, ceux qu'ils voient, c'est-à-dire les peintres en bâtiment, les fleurs, les jardins, la gare Saint-Lazare. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui bouleverse.
Et ce qu'ils voient aussi, c'est la mer. Et la mer, ça a une importance, vous l'avez dit, fondamentale pour les impressionnistes. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que Monet, Renoir, Degas, Manet, Caillebotte, Jonquille ne voient pas la mer de la même façon. Et rien que pour ça, ils méritent le qualificatif d'impressionniste, hein, que leur colle un critique en colère pour les ridiculiser, sans comprendre que c'est justement là leur génie. Et ce qui fait que 150 ans plus tard, on les admire partout dans le monde.
Oui, ce qui est aussi intéressant, moi, assez bouleversé, c'est de voir qui était le plus proche de la mer et comment on comprend la mer. Alors Pissarro, par exemple, lui, il découvre la mer, mais il la peint depuis un hôtel, une chambre d'hôtel, donc c'est très cinématographique, c'est assez loin. Mais quand on regarde les tableaux de Caillebotte, lui, c'est un vrai marin qui gagne des régates. Donc il y a un mouvement qui est différent. Monet, lui, il a son bateau, mais c'est un bateau qui va sur la Seine. Et donc quand il va à Belle-Île en mer, il est assez époustouflé par la tempête, il dit que c'est l'océan, c'est autre chose que la Manche. Il dit même qu'il faudrait être fou pour arriver à rendre ça. Donc, c'est des artistes qui découvrent aussi la violence des éléments. Ils s'y attendaient pas. Il y a un côté très doux en Normandie, mais quand ils vont en Bretagne, c'est autre chose.
Il y a un lien particulier entre les impressionnistes et la Normandie. Pourquoi la Normandie ? Pourquoi pas Biarritz, qui avait été mis à la mode sous le Second Empire, dont on sort à peine, là ?
Il ne faut pas oublier que l'impressionnisme, il est né au Havre. Monet est né à Paris en 1840. Il est arrivé à l'âge de 5 ans au Havre. Et donc, il peint son entourage immédiat. Et parmi son entourage immédiat, évidemment, il y a la mère. Et il rencontre Boudin. Et Boudin est un des précurseurs, évidemment, de l'impressionnisme. Monet a dit qu'il devait tout à Boudin. C'était son seul maître. Après, il dit que Jonquing était un maître important aussi. Donc, ce sont deux modèles qui vivent en Normandie. Et en Normandie, les impressionnistes, c'est aussi des touristes. C'est-à-dire que c'est les Parisiens qui vont en Normandie pour passer aussi les vacances, voir la famille de Monet, la famille Lecadre. Et ils prennent le train. Et de Paris au Havre, il y a le train qui est plus rapide. Donc, ils arrivent comme les touristes.
Plus rapide qu'aujourd'hui. Hein. Vous dites dans votre préface que c'est 5 heures à l'époque. Hein. Paris-Le Havre, c'est 5 heures. Mais pour eux, c'est la porte à côté.
Voilà, c'est une échappatoire par rapport au Paris industriel. Et puis, ça fait rêver la mer. Donc, ils ont envie aussi de s'échapper à un monde un peu oppressant.
On fait une pause, Cyril Siama, et on continue de parler de l'impressionnisme et de la mer juste après.
Europe 1. C'est arrivé demain.
Frédéric Tadié.
On célèbre le 150e anniversaire de l'impressionnisme avec Cyril Siama, le directeur du musée des impressionnismes à Giverny, qui organise une exposition L'impressionnisme et la mer jusqu'au 30 juin. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont intéressés, les impressionnistes, au début en tout cas, ils sont plutôt intéressés à l'activité des ports, hein, le départ et le retour des bateaux, l'agitation des quais. C'est au fur et à mesure, en fait, qu'ils se rapprochent de l'eau. Ils sont happés progressivement par la lumière et par les reflets.
Oui, je crois qu'ils sont comme tout le monde. Quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, on arrive dans le port, on découvre l'agitation. Et donc, ils vont commencer à croquer des personnages. Donc, Boudin, il va présenter, par exemple, la poissonnerie. Il va présenter des personnes se baladant sur les rues. Et puis, au fur et à mesure, ils sont un peu plus à l'aise. Donc, c'est des touristes qui arrivent, et puis ils prennent une chambre d'hôtel, et puis ils prennent leur marque, et finalement, ils s'installent, ils commencent à découvrir davantage le site, et ils vont s'approcher de plus en plus de l'eau.
Vous parlez de s'installer. Il y a la ferme Saint-Siméon, qui est aujourd'hui un relais château 5 étoiles à Honfleur. Mais à l'époque, c'était le rendez-vous des peintres impressionnistes.
Oui.
C'était pas cher.
C'était pas cher. L'auberge était agréable. Il y avait un bon accueil. Et puis, c'est un spot qu'on se donne entre copains, avec une très belle vue. Ça intéresse aussi les artistes. Donc, ils payent aussi leur repas en donnant des tableaux. Donc, c'est aussi très, très familial.
Vous avez parlé à plusieurs reprises d'Eugène Boudin, Cyril Siama. Il est né à Honfleur en 1824. Il a 16 ans de plus que Monet et Renoir. Et il va avoir beaucoup d'influence sur toute cette petite bande. Hein.
Oui, c'est vraiment la figure tutélaire, paternelle, sympathique, qui va aider Monet, qui est alors un jeune caricaturiste, qui va l'emmener en fait dessiner sur la hauteur d'Honfleur, à tel point que les pastels de Monet et ceux de Boudin sont souvent confondus. Il y a une touche et un regard sur le soleil, sur l'eau, sur la terre, qui est très proche entre Monet et Boudin. Ils se sont fréquentés toute leur vie. Et Boudin a aussi eu une influence sur Monet, mais Monet a aussi une influence sur Boudin. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fur et à mesure de la carrière de Monet, Boudin va regarder de plus en plus Monet. Et à la fin de sa vie, Boudin va être un petit peu déçu parce qu'il voulait absolument avoir une œuvre de Monet. Il a écrit à Monet et Monet ne lui a pas offert cette œuvre-là.
Ils sont terribles, les peintres, hein, pour s'offrir des œuvres entre eux. Hein. On sait que Van Gogh et Gauguin se sont disputés parce que Gauguin voulait bien échanger des Gauguins contre des Van Gogh, mais il voulait bien échanger un Gauguin contre deux Van Gogh.
Voilà.
Ça a été un point de départ assez tumultueux.
Absolument.
Pour rester sur Eugène Boudin, qui a 50 ans hein, au moment de la première exposition impressionniste dont on célèbre le 150e anniversaire, et donc qui fait figure à ce moment-là de précurseur de l'impressionnisme, d'ancien, quasiment les autres sont plus jeunes, il a été le premier à peindre les vacanciers sur les plages normandes, hein, vers 1862, à l'époque on ne disait pas les vacanciers, on disait les estivants, et plus particulièrement les estivantes, il parlait de ces petites dames sur la plage.
Oui, parce que à la station de Deauville, Trouville, c'est lancé par l'élite de Napoléon III, et donc lui, il découvre ces crinolines, ces jeunes femmes magnifiquement habillé. Il trouve que c'est extrêmement pittoresque et à la fois commercial. Et il se rend compte que ces petites dames marchent bien. Il commence à en vendre et donc il multiplie les esquisses et ça devient un peu une marque de fabrique de Boudin. Mais il y a beaucoup d'humour dans les dessins de Boudin et les peintures de Boudin.
C'est Baudelaire qui est le premier à parler de Boudin dans ses critiques d'art, car il était critique d'art, hein, Baudelaire. C'était un excellent critique d'ailleurs, et il chérissait la mer, comme le poème le dit. Baudelaire, il joue un rôle dans l'impressionnisme ou seulement sur la carrière de Boudin ?
Il joue un rôle dans l'impressionnisme, évidemment, puisqu'il considère que Boudin, c'est le maître des ciels. Donc c'est vraiment un précurseur Baudelaire pour découvrir le talent de Boudin. On est en 1859. Baudelaire n'est pas un artiste, un écrivain très très célèbre. Il va séjourner 6 mois à Honfleur, on oublie un peu ça. Donc il a beaucoup fréquenté Boudin. Et puis dans la critique de Baudelaire, il y a le peintre de la vie moderne et il met Manet. Et donc il lit Boudin et Manet dans la vie moderne et ça c'est fort.
C'est vrai que vous avez dit le mot ciel. Quand on fait une exposition comme la vôtre sur l'impressionnisme et la mer, on fait aussi une exposition sur l'impressionnisme et le ciel. Hein.
C'est vraiment une exposition sur le ciel. En fait, on se rend compte à quel point le ciel prend une part prédominante dans la toile. C'est souvent les 2/3 de la toile et 1/3 c'est la mer. Et donc ils sont fascinés par les éléments, que ce soit à la fois le soleil, mais aussi les nuages, la tempête, le ciel gris, le ciel un peu mauve, même l'éclair de lune. Donc c'est vraiment une impression de lumière. C'est ça, et le ciel est évidemment un thème fantastique pour eux.
En ce moment, vous les avez tous sous les yeux dans cette exposition. Est-ce que vous êtes dit, tiens, au fond, le meilleur pour la mer, c'est lui, et le meilleur pour le ciel, c'est un autre ?
Alors, le meilleur pour le ciel, à mon sens, c'est Boudin, qui est absolument incroyable, parce qu'il a une touche fragmentée, délicieuse. Il trouve des couleurs qu'on ne trouverait pas, nous, naturellement. Et puis, sur la mer, je trouve que Monet est extraordinaire. Il y a des vues de Belle-Île en mer qui sont incroyables. On est quand même fasciné par la technique. C'est un peintre immense. Il y a à la fois le regard, et puis nous, il nous force à être acteurs de sa peinture. On est obligé de rentrer dedans, d'essayer de comprendre ce qui s'y passe et ce que lui a affronté. On voit aussi, chez Monet, la violence des éléments. Il a dû lutter contre l'eau, lutter contre le vent, contre le sable. Et on sent que c'est très abouti.
On l'a oublié, mais au fond, toutes les avant-gardes qui vont se succéder ensuite, à partir du pointillisme, vont toutes se dresser contre les impressionnistes. Hein, c'est ce qui est assez drôle. Mais aujourd'hui, 150 ans après, les impressionnistes font l'unanimité dans le monde entier. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'on aime tant les impressionnistes aujourd'hui ?
Je pense que ce qui plaît encore de nos jours, l'impressionniste, c'est que c'est une peinture qui rassure, qui fait du bien. C'est un peu les peintres du bonheur, d'un art de vivre. Et puis, c'est une peinture universelle. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances en histoire de l'art, en histoire, en politique, en religion. Et donc, on se sent tout de suite à l'aise, on comprend tout de suite que c'est un tableau impressionniste qui est daté d'une certaine époque, avant la Première Guerre mondiale. Et on a aussi cette nostalgie, je pense, à cette époque-là.
De la Troisième République, donc entre la guerre de 70 et la guerre de 14, au fond, une longue période de paix. Merci Cyril Sciamma. L'impressionnisme et la mer, votre exposition dure jusqu'au 30 juin au Musée des Impressionnismes à Giverny, dont vous êtes le directeur.
Merci Frédéric.
Europe 1.
C'est arrivé demain, est arrivé à son terme. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une excellente semaine sur Europe 1.